On se tutoie
sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann, ta pub avant la pub.
Alors bon, il y a eu le concept album dance floor et orchestral qui compile un petit peu tes plus grands titres en version inédite, réenregistré et réorchestré. Quand on s'appelle Marc Cerron, c'est quand même aller chercher encore plus loin et toujours plus loin.
Alors non, pas réorchestré. J'ai trouvé des trucs, moi justement, c'est subtil. C'est que ce soit les originaux.
D'accord.
Si tu veux, mes albums originaux, Love Into Minor, Paradise, enfin tout ce, ce dont tu as cité déjà, il y avait les cordes, il y avait les cuivres. Donc j'ai trouvé mon chef avec qui j'ai changé depuis des années des claviers. C'est un très grand musicien qui s'appelle Randy Kerber. Si tu vas sur Google, tu tapes Randy Kerber avec un K. Ça fait peur.
Et Andy avec un Y.
Et absolument. Ouais. Et je dis ça parce que ça vaut le coup. Le mec, il est 4 fois oscarisé. C'est un très très grand.
Ouais.
Et je lui dis, écoute, je vais faire ça. Et lui, il me raconte, une fois de plus encore le pot. Il me dit, écoute, je viens à Paris pour 2 ans avec ma nouvelle femme. Elle veut rester un peu à Paris. Et on va se voir. Je lui dis, oh là, génial, j'ai un projet dont je vais te parler. Je lui parle de ça. Et je lui dis, le problème, c'est que t'as pas de place.
Ouais.
Tu peux pas faire d'arrangement. Je veux les arrangements originaux. Donc il faut tout déchiffrer, mais t'as pas de place pour t'évader, quoi.
Ouais.
Et il a accepté. Ça aurait été très difficile à faire accepter. D'ailleurs, j'ai essayé, sans citer de nom, avec des chefs d'orchestre français. C'était très difficile.
Le résultat,
c'est magnifique.
Ouais.
C'est magnifique.
Tu le fais dans tous tes concerts là où on va aller, donc dans tous ces festivals. D'ailleurs, un petit peu partout en Bretagne.
Plusieurs formules. J'ai vu. Alors maintenant, j'ai la formule symphonique. On est 50 que je balade un peu partout dans le monde en prenant les orchestres symphoniques locaux. Je trouve que c'est un bon échange, en plus ça devient de la collab encore.
C'est génial.
Et sinon, j'ai formule DJ tout seul.
Ouais.
Ça m'a pas empêché de faire les vieilles charrues tout seul.
Ouais. C'est toujours excitant ou pas pour
ça
toi?
Ça m'a fait peur, les vieilles charrues.
Non, parce que non, mais quand tu te retrouves face, parce que c'est un festival international, les vieilles charrues.
Ouais.
Il y a quand même beaucoup de jeunes. Ça bouge énormément.
Alors, attends,
et toi, excuse-moi. Bon, on va pouvoir en parler. On a un peu les mêmes âges. T'as un petit peu d'avance sur moi puisque je t'écoutais quand j'étais ado. Mais quand tu te retrouves face à des dizaines de milliers de personne, c'est ça en fait, les vieilles charrues. T'as quand même quelque chose, la boule au ventre ou pas?
Tout à fait, surtout que j'ai passé ma vie à jouer sur scène, à faire des concerts, mais accompagné à 10, 12,
bien
14
sûr.
Musiciens.
Là, t'es seul.
Là, j'ai dit, je le fais tout seul. Et alors, attends, en première partie, il y a Sam Smith.
Bonne chance.
Avec son groupe.
D'accord.
Derrière, il y a Gossip avec son groupe.
Ouais.
Il y a moi et Guetta en dernier, avec une mise en scène. Et moi, j'arrive tout petit, tout seul, sur la scène, et je me suis dit, je suis un malade.
Ouais.
Je suis un malade.
Il arrive tout petit, tout seul sur son fauteuil qui tombe à chaque fois, et là voilà. Il tient bien. Et alors, mais t'as peur.
Bah, j'ai fait un beau carton, c'était incroyable. C'était une semaine avant les JO en plus. En les quittant, je leur ai dit d'ailleurs, vous me donnez une énergie olympique. Et c'était pourtant dans le secret, mais je vis des moments absolument ouf. Ouais.
Quand je dis que t'es le préféré des 18-35 ans depuis. C'est vachement intéressant psychologiquement, depuis 50 ans, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens vieillissent, mais ton public ne vieillit pas.
Qu'est-ce que veux-tu que je te réponde à
non,
ça?
Non, non, mais oui, par rapport aux vieilles charrues, qui peut dire qu'il a un public qui ne vieillit pas, quoi? Toutes les personnes que je reçois, que ce soit à la télé, à la radio, ça continue d'évoluer, et toi, ça continue de passionner les foules et la jeunesse.
Et moi j'essaie d'être à la hauteur, et pour l'instant, ça le fait, donc tout va bien.
Eh ben écoute, on va être à la hauteur dans un instant de savoir si justement les auditeurs te connaissent bien, puisqu'on va prendre dans un très 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 court instant un auditeur ou une auditrice pour savoir si elle connaît bien ou il connaît bien son Marc Cerron.
On se tutoie jusqu'à 20h.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans fustel.
Et nous les posons à Marc Cerron, le pape de la disco. Moi j'adore, demain journée internationale de la disco. Alors c'est important, voilà, le Jean-Luc sans filtre, tu dis la disco et pas le disco. Ah si,
oui,
alors
oui,
je me suis renseigné.
Oui, parce
alors,
que
je ne sais pas pourquoi. C'est
la musique de discothèque.
Ouais.
C'est là d'où ça vient.
Non mais apparemment, t'es le seul à dire la disco.
Ah ouais.
À part mes potes belges qui disent, oh, j'écoute la disco, je vais dans la disco ce week-end.
Oh, tabarnak, pour une fois.
Tu écoute, passes de la Belgique au Canada d'un seul coup. Donc toi, tu dis la disco.
Oui, sans m'en rendre compte.
D'accord. Question juste comme ça. J'ai trouvé ça assez étonnant. Je vais te parler des pochettes de tes disques. Il y a eu quand même, à un moment donné, des tremblements à l'époque, dans les années 70, 80. Tu es quand même assez gonflé. C'est la provoque pour la provoque. C'est quoi? C'est pensé, c'est senti?
Non, c'est interprété comme de la provoque, surtout en France d'ailleurs, une fois de plus.
Ouais.
La Vinci Minor a été chantée par des choristes. Donc ça me semblait logique de mettre des nanas sur la pochette de disque. Et en fin de compte, quand je prends un petit peu de temps pour t'expliquer la raison.
Non, mais c'est important parce qu'ils ont comparé ça à des comédiennes d'actrices porno à un moment donné, alors que c'était pas ça du tout, c'est ce que tu veux
alors,
dire.
Alors je vais t'expliquer.
Ouais,
quand,
vas-y.
Quand je suis allé à Londres pour enregistrer, c'était pour moi mon dernier album, j'avais quitté il y a un an le groupe Congas et j'arrêtais la musique et du coup j'aimais Barry White, donc j'avais un arrangeur assez génial qui s'appelait Raymond Donnez,
ouais,
qui était français, donc j'ai dit voilà, je voudrais des cordes qui sonnent comme ça, je voudrais des cuivres qui sonnent comme le groupe Chicago, enfin bref, j'avais un concept. Il n'y avait pas vraiment de mélodie, il y avait un tas de petits trucs. Et je lui dis, par contre, je voudrais qu'on fasse un voyage de 20 minutes. Et on va à Londres. On arrive dans le studio et je vois le studio avec deux petits haut-parleurs de chaque côté. Tu sais,
les petites baffes,
ça,
ouais.
Les petites baffes, des ratons, on appelle
ouais,
ça.
D'accord.
Et je dis, mais moi je venais de Congas, gros groupe rock qui faisait du bruit et autres. Je dis, non, je ne peux pas travailler là-dessus. Donc je fais livrer deux tours de son de chaque côté. Mm-hmm. Qu'on a normalement sur scène. Mmh. Et donc mon pied, je mets pratiquement un jour à l'enregistrer parce qu'il n'y avait pas de boîte à rythme à l'époque. Et j'avais cette vision d'un truc très ce qui est devenu la Vinci Minor. Mmh. Et j'avais un clic dans les oreilles et quand tu fais le clic, tu le perds au bout de quelques secondes.
D'accord.
Donc on recommençait à remonter les machines. Mmh. Bref, j'ai mis à peu près une journée à faire la batterie.
Ouais.
Dans le même studio qui s'appelait Trident, il y avait Elton John qui enregistrait un album et Peter Gabriel avec Genesis qui enregistrait leur album.
Juste Peter Gabriel et Genesis.
On se croisait au ping-pong,
ouais,
et on sympathisait et il me prenait vraiment comme un allumé. Mais qu'est-ce qu'il fait le mec là?
Ouais.
C'est quoi ce truc?
Ouais.
Avec ce pied, boum, boum. Il devait certainement résonner dans les studios. Bref, au bout de 15 jours, 3 semaines, je ne me rappelle plus, quand on a eu fini d'enregistrer la Vinci Minor, j'ai invité tout le monde pour les faire découvrir ce que j'avais eu dans la tête. Je fais champagne, petit four et tout dans le studio.
Les plus grands artistes internationaux, alors.
Et je fais venir les choristes pour écouter au bout de quelques mesures. C'est elle qui commence à faire des gémissements, et si c'est ça, je n'avais pas prévu. Donc je fais signe à l'ingénieur, je dis, tu prends.
Ouais. Fait tourner.
Et ça dure donc 16 minutes 30, et elles font des gémissements, et c'est ça. À la fin,
rien n'était prévu.
Ah, je te promets que c'est vrai. Le lendemain, j'écoute ça avec mon ingénieur, et tiens, c'est pas mal. Bon, on fait un peu de tri, on nettoie un peu les choses. Je leur
envoie. On nettoie le studio parce qu'il y a eu des dégâts, bien sûr.
Je leur envoie aux filles.
Ouais.
Madeleine Bell, Sue Glover et Kay Garner.
Ah oui, donc t'as une très bonne mémoire des filles.
Ouais, c'était les stars du moment, celles qui chantaient sur tous les albums de Elton ou de Genesis, enfin toutes les grosses stars de l'époque.
Ouais.
Donna Summer, tout ça.
Ouais.
Et je leur envoie, je leur dis, est-ce que vous me permettez de le garder? Ils m'ont dit, mais oui, c'est tellement inspirant, sensuel et presque sexuel. Nous, c'est devenu naturellement comme ça.
Ouais.
Tiens, pas mal. Donc, la pochette m'a aussi inspiré. Du coup, on va y aller un petit peu dénudé, quoi. On va ouvrir un peu les portes. Mais vraiment, par contre, je te promets que je ne pensais vraiment même pas que ça allait peut-être sortir de manière officielle, commercialement. C'était un coup, ouais.
Les maisons de disques, quand tu dis, évidemment. Parce que quand tu dis, je vais mettre des femmes dénudées.
Le premier qui m'a jeté, c'est Eddie Barclay, qui m'avait
signé. Prends ça.
Qui m'avait signé avec le groupe Congas.
Ouais.
Je viens, je lui propose ça. J'étais tout fier, tout content de lui faire écouter. Il était amené Friedland à Paris. Il me fait, ouais. Et t'as cassé le groupe Congas pour faire ça.
Ouais.
Donc il l'a mal pris, il m'a engueulé, je suis parti.
C'est assez étonnant parce que pour les auditeurs qui n'ont pas la référence, c'est lui qui te met le pied à l'étrier à Saint-Tropez en
avec
te disant, il t'entend dans la rue parce que tu commences dans la rue, il t'entend et dit tiens, tu pourrais pas venir animer une soirée ou quelque chose comme ça, viens faire ta musique chez moi, c'est ça?
Voilà.
Et le même Eddie Barclay, à un moment donné, te dit...
4 ans après, il me dit... Mais
tu m'as cassé le mythe, quoi.
T'as cassé le groupe parce que j'ai quitté le groupe, parce que je voulais faire autre chose. On avait trop de concerts, même si on est restés très copains, puisque ce groupe, la moitié, les deux percussionnistes sont devenus mes musiciens après.
Génialissime.
M'ont accompagné pendant des décades et des décades.
Ouais.
Donc, tu vois, la proximité, on est restés très très potes. Mais voilà, on m'a jeté de partout. Partout, on me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec cette batterie de bûcheron, là, de m'était un malade.
C'est génialissime.
Et je me suis fait jeter. Donc, j'ai décidé d'aller faire fabriquer un peu de vinyle, puis essayer d'en avoir un peu à gauche, à droite. Et sauf que les Anglais, la maison de disques qui acceptent de me fabriquer, me dit non, moins de 5000, on n'en fait pas. Mais qu'est-ce que je fous avec 5000 disques ?
C'est génialissime.
Mais je dis ok, je le fais.
D'accord.
Et puis là, avec des potes, on commence à en mettre dans les drugstores, 2 là, 3 là, 5 là. Et ça va très très vite. Au bout de 3-4 semaines, j'en ai vendu peut-être 2000.
Ouais.
Je suis sidéré.
Ouais.
Donc,
c'est toi qui vas les mettre quand même dans les boutiques. Tiens, je vais là,
Certaines,
ça,
dont,
c'est quand même extraordinaire.
Dont une qui est sur les Champs-Élysées, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était vraiment un peu l'amphithéâtre, là où tous les DJ branchés allaient chercher des nouveautés internationales et pas françaises.
Mm-hmm.
Parce qu'il y avait quand même ce mouvement de discothèque qui arrivait, tu vois. Je c'est pas moi qui ai bâti les murs, je me suis enfilé un peu là-dedans. Et Champ Disque m'en demande 10 et 20 et 50. Puis au bout de quelques jours, il me dit, écoute, c'est incroyable ton truc là. C'est toi qui as l'exclu anglaise. Hein. Moi, je lui dis, ouais, c'est moi qui ai l'exclu, t'inquiète
ouais,
pas.
Ouais.
Personne peut t'en vendre. Et il me dit, tu m'en mets 300 et on fait les comptes à la fin du mois. Sauf que...
Bim bam boum.
Au bout de 3-4 jours, ils se sont plantés. Au lieu de renvoyer des Barry White, ils ont envoyé à un grossiste à New York mon album.
Ça, je trouve cette anecdote complètement folle. Donc c'est vraiment un accident.
Oui, c'est pas l'accident qui a fait le succès quand même, parce que je te répète que c'était déjà en train
Oui, non mais d'accord. Non mais, donc on renvoie un carton de Barry White, et en fait c'est Marc Cerrone qui est dans le carton.
Voilà, au lieu d'envoyer le Barry White, le magasinier derrière s'est planté, quoi, voilà, il a envoyé...
Tu te rends compte de l'histoire ou pas?
Et ça a pas changé ma vie, parce que de toute façon on était en train d'y arriver. Hein,
oui, non mais tu traverses le continent quand même.
Mais ça m'a fait accélérer la situation, c'est-à-dire que quand j'ai su ça, bah, que ça a commencé à buzzer beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui... Je me souviens d'un mec que tu as dû connaître peut-être, qui s'appelait Yves Morosi.
Bonjour.
Oui, qui m'avait raconté ce qui se passait à New York. Il m'a dit, mais vas-y, fonce, qu'est-ce que t'attends? Donc je l'ai un peu écouté, j'ai pris un pote, je suis allé là-bas, j'ai recommencé le marché.
T'as sonné à une porte?
J'ai signé à une porte qui s'appelait Atlantic Records, qui s'appelle toujours d'ailleurs Atlantic Records. Et sans te raconter les détails, parce que t'arrives au standard, qui tu es, tu parles mal l'anglais.
Ouais.
Et tu veux raconter que c'est toi ce qu'on entend.
What do you want?
Bref, j'y suis arrivé et on m'a signé très très vite.
Mm-hmm.
En 48 heures, j'ai signé un contrat et le disque est sorti quoi, un mois et demi, deux mois après. Et ça a fait boum.
Ben ouais, dans notre cœur qui fait boum.
Alors, toujours... ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que un an ou 8-10 mois après, quand je suis revenu en France, que je croisais sans citer de nom des mecs de maison de disques, m'ont dit, mais c'est tellement génial, pourquoi t'es pas venu nous voir, pourquoi tu nous as proposé?
Ouais, c'est
le
ça.
Le mec avec qui t'es face à face.
Ouais, hein, ouais, c'est ça, ouais.
C'est sans problème.
Bien évidemment.
100 kilos.
Il en a connu quand même pas mal. Et dans tes rencontres, avant d'écouter, bien sûr, une musique qui me tient particulièrement à cœur, il y a la famille Michael Jackson dans ta vie. Quand même. Tu peux m'expliquer comment la porte s'ouvre?
J'ai rencontré Michael chez Atlantic. On était sur le même label qui s'appelait Cotillon, où il n'y avait que des blacks. J'étais le seul blanc et ça me gênait. J'ai l'impression vraiment ça me gênait dans le sens où on ne sait pas être à la hauteur. Il y avait Quincy Jones, il y avait Jackson 5, Richard, il y avait vraiment Prince qui était là. Il y avait, bref, Nile Rodgers, c'est là où je l'ai rencontré. Oui, j'ai rencontré là. Ensuite, dans les
Attends,
années...
tu rencontres là, ça se passe comment cette rencontre?
On s'est croisés dans des couloirs, comme tu vois tout à l'heure.
Il sait ce que tu fais?
Ah bah évidemment.
D'accord.
Ah bah oui, je suis déjà à Supernature.
Ouais.
Donc on est au troisième album, évidemment.
Ouais.
Il me félicite, moi je le félicite, voilà, on est comme tout à l'heure, on a croisé Obispo dans ton studio, on a
bien sûr.
Tu te croises dans les studios.
Bien sûr.
Et puis un an très sympathique, un an après, même pas un an après, je commence à m'installer vraiment aux États-Unis. J'aimais bien les Silver Shadows, les Rolls, j'en avais à Paris, donc j'en voulais une là-bas. On me dit tiens Michael, ils vont la sienne Black. Ah ben je dis vous pouvez l'appeler, on peut faire donc ma maison de disque a organisé les rendez-vous. Je lui ai acheté sa bagnole là-bas.
Tu as acheté la Rolls de Michael Jackson.
Ouais, en 78, là, noir, un titre magnifique.
Ouais.
Et blanche à l'intérieur, enfin bref.
Ouais.
Et ensuite, en 80...
Tu l'as plus?
Non.
C'est dommage.
Au bout de 40 ans, j'imagine, tu vois, c'est un tracteur aujourd'hui.
Ouais, ouais, non, mais quand même, la symbolique. Et
mais
après,
si
donc...
tu me laisses aller à Boubou.
Mais je te laisse aller à Boubou.
Je
savais pas que t'avais la Rolls de Michael Jackson, si tu veux, excuse-moi, c'était un choc pour moi.
Ah bon.
D'accord, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Et là, il sort son album solo, et ce qui devient ce que l'on sait, on est en 70, et je crois que c'est vers les années 84, 85,
ouais.
On me fait appeler.
Mm-hmm.
Par une copine commune et sa maman l'atelier Jackson vient me rendre visite. Donc
c'est sa sœur.
L'atelier Jackson.
Ouais.
Le sosie de Michael.
Ça c'est troublant.
Et la maman. ouais. de la famille,
ouais.
voudrait me rencontrer à la demande de Michael. Donc, c'est une amie qui s'appelle Jackie Lombard, que tu connais peut-être.
Mais évidemment.
Qui m'appelle et me dit, est-ce que t'as un thé voilà, et Jackie elle me raconte Lombard. L'histoire. Bah, ouais. Je dis, bien sûr, hein, bien sûr. Je vous attends, ils viennent à la maison, on leur fait un thé, si et ça. Puis tout de suite, je me branche avec l'atelier. J'ai toujours eu mon studio partout où j'ai vécu dans le monde. Et je laisse la maman avec ma femme de l'époque discuter. Et puis, moi, je m'enferme dans le studio avec l'atelier. On reste 2-3 heures. Je lui fais écouter plein de trucs. Elle me dit, j'adore et tout. Est-ce que tu peux me laisser des copies? Je vais écouter à mon frère.
Ouais, bah, mon frère Michael Jackson. Parce que c'est vrai que sa sœur s'appelle Latoya, mais son frère s'appelle Germaine. D'un seul coup, c'est une histoire de fou. Et donc, elle le fait écouter à Michael.
Elle le fait écouter à Michael, qui m'appelle le lendemain. On se rend compte, ça va très très vite. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé producteur de la petite sœur.
Ça, c'est quand même fou, ça. Et en tant que producteur de Latoya Jackson, ça dure combien de temps, ça?
Oh, 3-4 mois, parce qu'en plus, pour mon temps, lui, il était en train de faire Bad.
Ouais.
Donc, il voulait que ça se passe dans son studio. Alors, moi, je préparais dans le mien, mais l'enregistrement se faisait dans son studio.
Ouais.
Ça pouvait être le soir, la nuit, ça pouvait être le jour, ça dépendait de lui.
Quoi. Bien sûr.
On était aux ordres.
Ouais.
Et quand on arrivait le matin, qu'il était à peine, il s'était à peine couché, il était frais, bien, et ça se passait dans sa... à Mulholland, dans sa maison là-haut.
Ça, c'est extraordinaire.
Et après, le truc, le single est sorti. On a même fait un single qui s'appelait Oops or No, tu dois le trouver.
D'accord.
Ça existe. Et c'était une belle aventure, ouais.
Très, très belle aventure avec Céron ce soir sur Nostalgie, sur la route du week-end. On écoute Michael Jackson, ça va te rappeler de bons, bons, bons souvenirs. En plus, c'est de la nostalgie positive ou pas, ça?
Absolument.
Sur la route du week-end avec Marc Serron, le pape du disco, journée mondiale, voire même internationale, voire même française du disco en cette mi-mars. Ça va, tu te sens bien, Marc?
Ah, absolument.
Moi, c'est un grand bonheur de parcourir un petit peu ta vie. Et on va savoir, bien évidemment, avec ce numéro de téléphone complètement magique venu d'une autre planète, le 0660. 495-864. Si des auditeurs connaissent bien leur Marc Serron, c'est la minute obligatoire et nécessaire, vulgairement appelée par la voix off, tu connais bien ton Marc Serron. Et je dis tout de suite, allô, bonjour, bonjour, qui est à l'appareil? Allô, allô.
Bonjour, bonjour, m'entendez Jean-Luc?
Bonjour, un petit accent, bonjour, qui est à l'appareil, pardon?
Alors, c'est Michel d'Avignon, d'où l'accent.
Ah bah alors, Michel d'Avignon, d'où l'accent, je te présente Marc Serron, à qui
bonjour.
Tu peux poser toutes les questions.
Wow, bonjour, bonjour Marc, je suis très très ému.
Eh ben, ça
faut pas.
Ben, si, faut. Je veux dire, ça fait quand même, voilà, sans divulguer quoi que ce soit, 50 ans que tu nous accompagnes quand même, non, quelque part?
Ah ouais, ça fait un petit peu partie de la famille maintenant.
Ben oui, c'est ça, c'est un demi-siècle.
C'est exactement ça.
D'ailleurs, je voulais venir déjeuner dimanche, c'est possible.
À Avignon, bien sûr.
Avec plaisir.
Ouais, qu'est-ce que avec tu voulais plaisir. Dire, Michel, pardon?
Je veux dire, Jean-Luc, Marc Serron n'est pas le pape du disco, il est le dieu du disco.
Ouais.
C'est un échelon dessus.
Non, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, je découvre Marc au fil de cette soirée, et c'est qu'il est resté le même, d'une sincérité étonnante, d'une simplicité totalement déconcertante. Je dois t'avouer que je suis heureux de faire cette petite interview au comptoir du bistrot du vendredi soir.
Ce gars est un ovni, il est une star internationale,
ouais.
avec des concerts démentiels,
ouais.
et on ne connaît pas la personne. C'est-à-dire, on connaît Marc Serron grâce à ses albums, grâce à ses clips maintenant. Moi, quand j'étais gamin, ces clips, ils pouvaient pas passer à la télé. Il y avait trop de jolies filles.
Ben ouais.
Et de gémissements, on va dire, de bruit de gorge. Mais ouais. on le connaît grâce à sa musique.
Ouais.
Et on le connaît autant grâce au prix qu'il a remporté. Il est bardé de prix, ce gars. C'est
ouais.
une star internationale, mais il est en dehors du star system. Et voilà, c'est quelqu'un de simple. Moi, la première fois que je l'ai vu, parce que je savais pas qui c'était, je connaissais sa musique, et juste hyper planante, quoi, hyper sympa. C'était avec Mourouzi. J'ai recherché justement quand il y a eu cette émission aujourd'hui, j'ai recherché cette interview
ouais.
et il est là un peu comme dans ses clips il regarde la caméra avec un petit air je sais pas, c'est un petit air moqueur, un peu ironique ou autre, je suis là, c'est normal. Avec Mourouzi c'est pareil, c'est le gars qui est devenu célèbre et qui dit je suis là, c'est normal, mais qui a pas la grosse tête, quoi. Il est en dehors du star system, c'est un ovni dans le...
Je dois t'avouer Michel que je le regarde, c'est exactement le même. Alors j'ai pas la référence visuelle avec avec Yves Mourousi de l'époque, mais après avoir côtoyé des stars mondiales, puisqu'on parle de Michael Jackson, de La Toya, de Donna Summer, enfin tout le monde, je trouve que effectivement Michel a raison.
Si je peux vous expliquer la raison, j'ai toujours fait la différence entre ma vie,
ouais,
ma famille, mes enfants, mon foyer,
ouais,
qui pour moi est un peu la source, la vraie vie, et mon métier. Et c'est pour ça que je me suis très peu livré à que les gens viennent de l'autre côté. Ça m'a permis aussi de passer les périodes, tu sais, quand tu reçois des Grammy Awards ou des machins ou des prix, et à force qu'on te dise que t'es un génie, que t'es un précurseur au CSA, faut surtout pas y croire. On avance.
Ouais.
Et moi, c'est la vie, ma vraie vie de famille et de réalité qui fait que je me suis pas tout protégé. Moi, je l'ai fait naturellement. J'ai pas fait de calcul.
Non, mais tu suis tes envies et tu suis ton instinct, en fait.
Oui, ça m'a jamais intéressé. J'ai pas fait ce métier pour être sous la lumière, pour être sous les applaudissements, et c'est ça. Moi, mon but, c'était de faire de la scène.
Bien sûr.
J'ai fait même des albums, c'était des accidents, c'était des contenus pour la scène. Et je continue d'ailleurs en tant que DJ aujourd'hui, tout ce que je sors, c'est des trucs que je teste sur la scène. Donc moi, le plaisir de faire ce métier, c'est de l'avoir fait sur la scène.
Moi, la rencontre que j'ai
avec toi... Le reste, les hits parades, nul n'est à l'abri d'un hit, hein. J'en ai fait quelques-uns, mais le premier, Love in C Minor, il n'était pas vraiment prévu à 16 minutes 30 pour faire un hit.
Bien sûr.
Ça m'a jamais... Et je suis content d'avoir eu cette attitude d'ailleurs.
La rencontre que j'ai avec toi, là... Pardon Michel, je t'écoute.
C'est quand même un gars qui a fait un opéra avec... Montserrat Caballé sur des paroles du Dalai Lama qui lui ont été données par le Dalai Lama, qui aujourd'hui a pu faire un méga concert sur la mer à Nice avec une chanteuse d'opéra sur des paroles du Dalai Lama.
C'est
presque de malade quoi.
Freddie Mercury il a fait aussi ça, mais quand même
on tutoie les dieux,
il a raison. T'as vu la culture qu'il a sur toi?
C'est vrai, c'est bien, merci beaucoup.
Enfin, c'est bien, c'est hyper touchant. On va voir si on va encore un petit peu plus loin. Je reparlerai de ce dont je voulais parler tout à l'heure. Pour l'heure, vu que Michel, tu as l'air de très très bien connaître ton Marc Cerrone, on va savoir si pendant 60 secondes tu es prêt. Il y a des jolis cadeaux. Non, il n'y a pas de aïe aïe aïe, détends-toi. En plus, c'est Marc, c'est Jean-Luc, tout va bien, on se tutoie, d'accord?
Ok.
Ok, d'accord. Détends-toi, attention, 3, 2, 1, ça commence maintenant. Première question, quelle est la nationalité de Marc? Il est italien, il est français?
Moi, français.
You, oui. Quel est l'instrument de prédilection de Marc? La batterie, le piano?
Oh ben, il faut voir ses solos de batterie, c'est un batteur. You,
avant de devenir la star que l'on connaît, Marc était directeur artistique au Club Med ou DJ au Shogun Club?
Alors ça, c'est une colle.
Vite.
Allez, j'irai Club Med.
You, oui. Comment s'appelle son premier groupe? Marc et les Géos ou Congas?
Alors, il a dit tout à l'heure, Congas.
De you, quel genre oui. musical est-il une icône? Le mambo du décor? Calco ou le disco?
Le disco.
D'accord. Yo, quel tube de Marc lui vaut un Grammy Awards? Love in C mineur ou Supernature?
Alors, il a dit tout à l'heure Love in C mineur.
D'accord. Yo, pourquoi oui. Love in C mineur est boudé par les radios? Soit parce que c'est la BO d'un film porno, soit parce qu'elle est beaucoup trop longue.
Pour la télé, ce serait la première réponse, mais c'est plutôt les 15 minutes ou 16 minutes que ça dure. Quoi.
Et enfin, Marc Cerrone a été aussi écrivain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Alors, je pense qu'il a écrit le guide de comment recruter des jolies filles pour les clips, mais en fait, je sais pas du tout.
Alors, vrai ou faux?
Faux.
Oh non!
Ah, dis donc, à ça du bol de sangria. Il était. Mais t'es quand même vachement bon. On va reprendre. Non, il est quand
ouais,
même.
Il mérite un coup d'aide, là.
Mais évidemment qu'on va lui offrir des cadeaux. Mais pour l'heure, c'est quoi ce bouquin? Attends, Michel, je reprends Avignon. C'est quoi ce bouquin? Alors, donc, tu es français, né à Vitry-sur-Seine. La batterie, il avait raison. Là, ce que je voudrais juste dire, tu es directeur artistique au Club Med. Gilbert Trigano, à un instant dans ta vie.
Il m'avait engagé pour monter des groupes et d'envoyer un peu dans des villages.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs, j'ai fait 3 saisons, il y a 1 an et demi.
Ouais.
Et j'ai dû monter une vingtaine de groupes. Et c'est de là où j'ai pris les meilleurs éléments pour monter le groupe Longas.
Et c'est là, les Crazy Signs, c'est d'où ça commence là?
Tout à fait.
Oh les mains, Ottawan, tout
ah,
ça.
Oh, ouais, les bronzés, j'ai connu.
c'est fantastique, il a connu les bronzés. Là, après, effectivement, c'est les Congas, il avait raison. Le disco, évidemment, et non pas le mambo du décalco. Le tube qui te vaut un Grammy Awards. On oublie quand même de dire, quand on dit, et Michel, tu as totalement raison. C'est une vedette planétaire internationale comme cette journée internationale du disco demain. Tu as pris un Grammy Awards, quoi.
Alors, j'en ai pas pris un, j'en ai pris 5.
Non, mais voilà.
C'était avec Supernature.
Je remercie. Je dédicace, bien sûr, cette petite parenthèse à Quentin. Mais en fait,
je suis désolé de cette petite précision.
Non, mais c'est vachement bien que tu me le dises. Moi, j'avais pas la ref. Mais là, tu prends 5. Attends, je le répète, tu sais, le mec complètement naturel. Tu prends 5 Grammy Awards. J'ai dit, pas un, pas deux, mais 5. C'est une reconnaissance planétaire. À partir de ce moment-là, on est en quoi? En 77?
Ouais, 77 ou 18, je sais plus bien.
Ouais.
Alors, c'était pas ce que c'est devenu. Hein.
Non, mais parce que à l'époque.
La grosse récompense qui était plus importante que les Grammy, c'était les Billboard Music Awards.
Non, mais attends.
Où j'en ai eu 5 aussi.
D'accord, non, mais là, cette année-là.
Je suis désolé de cette précision.
On appelle Marc Cerron 5. Il y avait Henri 4, Henri 5, tu vois, et il y a Cerron 5. Cette année-là, en 77, si je me trompe, tu me dis, c'est pas grave, on s'en fout des dates, mais il y a en compète George Benson. Dans la compète des Grammy Awards, il y a Stevie Wonder, Barry Manilow, il y a Paul Simon. Et là, il y a Marc Cerron de Vitry-sur-Seine. Non mais tu vis comment? Tu pètes un boulard après?
Oh, je me demande, ils sont trompés, quoi. Je vais me faire opérer, je sais pas, j'ai 22, 23 ans, 24 ans, je sais plus.
Ouais.
Comment tu vis ça? C'était tellement fou, je sais pas, je sais plus.
Non, mais tu sais plus, c'est-à-dire que, mais là, après, tu tombes de...
Ce que je sais, c'est que j'étais pas sur la scène, j'étais dans la salle.
Ouais.
Et temps que je traverse, parce que j'avais aucune idée, ce que ça représentait, même. Ça a pas été mes plus grosses émissions, mais émotions, je veux dire. Ma plus grosse émotion, c'était un gros show qui s'appelait le American Bandstand,
ouais,
à New York, qui était le samedi soir, un peu le Drucker show, tu sais, du samedi soir.
Bien sûr.
Et ma maison de disques me dit, viens, on t'invite, peut-être qu'ils vont présenter la pochette de l'album, qui avait été donc censurée, c'était une autre pochette de Lovincy Minor.
Ouais.
Et j'arrive là-bas et la fin de l'émission, il y avait un artiste vedette, et je vois débouler les stars l'une derrière les autres qui font leur show, quoi. Je suis en backstage et je me dis, mais qui est quelle est la star, la surprise? Et je dis à mon mec de maison 10, il dit donc, il me présente pas. Et il me dit, là, le mec, il me dit, tu sais, on t'avait dit, c'était pas sûr, hein,
ouais.
Mais reste là, t'es pas bien là? Oui, je suis bien. Et d'un seul coup, j'entends pom 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 pom. J'entends la Vinci Manor qui démarre. Et là, je leur dis, vous faites, c'est quoi? Et j'entends du live. Ils avaient tout fait répéter, le groupe là et tout. C'est ma première télé, c'est visible d'ailleurs, tu vas sur le web.
Ouais.
Tu tapes sur Cerron American Bass Dance, on le voit, j'ai les yeux, c'est un truc de fou. Ça a été une grosse émotion. Comme les JO par exemple,
bien
ça,
évidemment.
C'est une grosse émotion. Le reste, les prix. Je suis content, bien sûr, c'est bien, mais ça, là, comme la séparation entre le métier et ma vraie vie familiale,
ouais,
j'ai toujours fait la
t'as tout cloisonné, quoi.
Disons que fait la session des deux, ouais.
Mais alors, Michel,
ça évite de se prendre la tête.
Le 14 juillet, non, Marc, le 14 juillet, ça a dû être quelque chose, les 200 ans de la Révolution.
C'est intéressant, là, on est en 1989, je dois t'avouer qu'il y a Jean-Paul Goude qui met en scène, et il a raison, Michel, il connaît vraiment bien ta vie.
Et moi, je fais le soir. Là,
et tu sais ce que je fais, moi, ce jour-là? Je suis en haut de l'Arc de Triomphe, et c'est moi qui fais la voix, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a 200 ans. Et donc, j'étais la voix, et Jean-Paul Goude m'a appelé pour faire la voix qui résonnait sur tous les Champs-Élysées.
Alors, tu veux que je te dise quelque chose?
Vas-y.
On s'est rencontrés.
Ouais.
Tous les deux.
En 1989.
En studio.
Ouais.
Ouais. Je sortais un film que j'avais écrit avec Alain Delon qui s'appelait Dancing Machine.
Ouais.
Et on a fait des spots cinéma.
Ouais.
Et je cherchais une voix.
Ouais.
Une voix vraiment, celle, ta voix. Et c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois.
Moi qui ai fait la voix, bien évidemment.
Ah, bravo.
Mais non, mais je voulais pas, me mettre en avant par rapport à toi. Mais effectivement, en 1989, on m'appelle et j'étais tout en haut de l'Arc de Triomphe. J'étais seul à un moment donné. Et t'avais une résonance, si tu veux, de tous ces baffles, de tous ces haut-parleurs qui prenaient la voix, et je faisais prendre conscience aux gens, et Jean-Paul Goude m'avait donné le micro en disant, il faut que tu dises ce texte d'une page.
Juste anecdotique,
ouais.
Ça je l'ai vécu le 31 décembre.
Ah ouais.
Ils m'ont fait jouer en route des Champs-Élysées.
Ouais.
Il y avait 1 million de personnes.
Ouais.
Je sais pas si t'as vu le 31 décembre.
Bien sûr, évidemment.
Il y avait un son d'enfer, la scène assez haute, et j'ai vu, on aurait dit de la moquette, tu sais, de la moquette frisée.
Oui, bien sûr.
1 million de personnes.
Ouais, c'était que les cheveux. feu.
Et j'ai vécu ça aussi, c'était un grand souvenir aussi. Ça.
Et c'est pour ça qu'on se tutoie, parce qu'on se connaît depuis 1989, voilà en fait. Michel, juste avant de te couvrir de cadeaux, il y a effectivement cette dernière question en point d'interrogation. Effectivement, tu as buté sur Marc Cerón est un écrivain. Eh ben oui.
Je suis pas un écrivain,
bah, j'ai écrit des choses. Si, t'as publié des romans policiers. T'étais en forme ce jour-là ?
J'étais en forme, j'étais surtout très motivé par un mec qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Alain Delon.
Bien sûr.
J'ai beaucoup fréquenté à cette époque-là. Et comme il me motivait, bah, j'essayais d'être à la hauteur. Quoi. Et en fin de compte, on en a fait un film, quoi, c'est Dancing Machine.
Oui, avec Claude Brasseur en plus.
Avec Brasseur, oui, tout à fait.
C'est un grand moment, non, Alain Delon ?
Ah, moi, c'était surtout à Los Angeles. On s'est connus en...
Oh.
À peu près, il a tourné Airport Concorde et moi j'en faisais la musique.
Extraordinaire.
En tous les cas. Et on s'est pas quitté pendant 10-15 ans, quoi, à peu près.
Je me doute. En tous les cas, Michel, on va te couvrir de cadeaux. Je m'aperçois qu'on va pouvoir t'offrir des vinyles de ta part et de la part de ta boîte de disques et de ma part et de la part de Nostalgie. En plus, Michel, t'es assis. Michel, je vais t'offrir la platine vinyle qui va avec les vinyles. D'accord. En plus, Michel, t'es assis. Ça va faire plaisir à la maison de disques. Je vais t'offrir deux places pour aller voir Cerón en concert. Où tu veux dans un festival, tant pis pour la maison de disques.
Magnifique.
D'accord. Wow, Avignon.
Tiens, alors, il est hyper au courant. Avignon. Avignon, tout le monde descend. Alors, je vais retrouver les dates, effectivement. Il est à Rennes, à Vitrolles. Ah, bah, Vitrolles, c'est pas trop loin chez toi, hein ?
Non, c'est pas loin du tout.
Eh bien, écoute, le 12 juillet, il est à Vitrolles, au festival de Jardin Sonore. Eh bien, on va tout faire pour qu'avec la maison de disques, on réalise les rêves des auditeurs. Bravo, tu connais très, très, très bien ton Marc Cerón.
Merci, Michel.
D'être fidèle à Nostalgie, Michel.
Merci. C'est très, très, très émouvant d'entendre quelqu'un d'aussi naturel, d'aussi simple, alors que c'est une star, la star planétaire. Quoi. Ça, c'est impressionnant. Ça avec fait... Jackson, Delon, toutes les stars des 50 dernières années sont passées là. Quoi. C'est impressionnant.
Et, non, mais c'est touchant ce qu'il dit, Michel.
Bien sûr.
Michel, tu reviens quand tu veux sur Nostalgie. Merci d'être fidèle.
Jean-Luc, au niveau des vinyles, tu as dit il y a des vinyles de la part de Jean-Luc, mais tu chantes pas dessus, j'espère.
Non, pas encore, non.
Ah, ça va. Entendu ce matin, et donc je sais qu'il vaut mieux pas que Jean-Luc chante.
Merci beaucoup, Michel, de ton humour et de ce deuxième degré qui te va si bien. Merci à toi, sois prudent et n'oublie pas demain, tu mets un col pelle à tarte et les pantalons pattes d'œuf, parce que c'est la journée internationale du disco. Oui, tu regardes ta montre, je ne vais pas tarder à te quitter parce que je sais que tu vas préparer ta journée internationale du disco. Mais pour l'heure, figurez-vous qu'on termine avec les auditeurs et la rubrique s'appelle...
What's happened
sur le WhatsApp de Jean-Luc? Alors, on laisse la place aux auditeurs.
Let me know.
Eh bien, justement, let me know. Écoutons le ou la première auditrice, d'ailleurs, qui veut te poser une question.
Ok.
What's happened sur le WhatsApp de Jean-Luc?
Salut, Cerón, c'est Cédric. Je t'appelle depuis Toulouse et je voulais savoir, en tant que grand fan de ta musique, quelles ont pu être tes grandes sources d'inspiration pour toi dans ta carrière? Et plus généralement, voilà, si un artiste a eu une influence sur tes créations musicales.
Intéressant, des influences, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu sur les orchestrations, j'ai eu les cordes de Barry White, j'ai eu les cuivres d'un groupe qui s'appelle Chicago, et j'ai eu les percs de Santana, je suis assez bon public, je me laisse influencer.
Tu te laisses influencer, mais la question de Cédric de Toulouse, c'était ton inspiration.
Oui, c'est, bien évidemment, sinon j'aurais pas eu mon son pendant 50 ans, je serais allé dans toutes les modes qui sont passées, je les aurais suivies. Moi c'est très visuel quand, peut-être te paraître louche, mais quand je passe en studio, j'ai déjà visuellement là où je veux aller.
D'accord.
Je suis un peu un autodidacte et j'ai appris avec la scène, avec le public devant.
Avec le ressenti.
Avec ces ressentis-là, c'est là où je me dis, tiens, le pont il est trop long, tiens, là, ça le fait pas, donc je bouge. C'est très visuel, voilà.
C'est intéressant. Juste pour rebondir par rapport à Claude François, puisque Cédric parlait des influences, tu l'as ressenti comment, Claude François, quand il est arrivé dans le PAF Musical?
Bah, comme beaucoup qui arrivaient un peu de partout dans le monde, qui s'accrochaient à la mode, qui s'accrochaient. Bah,
tu veux dire, alors, tu veux dire qu'il a rien inventé et qu'il a un petit peu eu des inspirations outre-Atlantique, ça on le sait, oui, mais qu'il n'a pas inventé comme toi le disco quand même.
Mais c'est le propre même de la pop. La pop, c'est la musique, c'est-à-dire ce qu'on appelle populaire.
Là, c'est un running gag, mais ça marche très très bien le running gag. Le fauteuil s'est baissé, vous inquiétez pas.
Il s'accroche toujours au mode. Aux influences sonores et musicales, mais ça a toujours été le cas, comme il y a eu de la pop qui s'est accrochée très proche du rock avec des guitares qui distorsent, comme il y a eu. Voilà.
Nouvelle question sur le WhatsApp. Allô, oui, bonjour, qui est là?
What's happened sur le WhatsApp de Jean-Luc?
Salut Marc, c'est Yann de Cergy. J'avais une petite question. Je voulais savoir si tu étais toujours autant fan de batterie et prends-tu toujours autant de plaisir à en jouer. Merci.
Ah ouais, la batterie, bah tu l'as mise en avant quand même, hein.
Oui, bah, je suis toujours assez fan, bien sûr, c'était mon meilleur copain qui l'est toujours. J'en fais beaucoup moins sur scène.
Attends, ton meilleur copain, c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire, c'est là où j'ai passé le plus de temps, je crois, de ma vie avec.
Oui, c'est ta meilleure copine alors.
Quelque chose d'autre qu'un vivant, quoi.
Ouais.
Et donc sur scène aujourd'hui, quelquefois, bah, par exemple le symphonique qui arrive là, bah, j'ai une batterie de côté, j'y vais quand j'ai envie, quoi. Mais je fais 2-3 titres. À mon âge, ça commence, c'est très physique la batterie. Hein,
donc, ouais, les articulations quand même, parce que il faut y aller quand même. Hein, parce que moi j'ai vu des petits sets de toi tout seul il y a 10, 20, 30 ans. Tu te donnais quand même pendant plusieurs minutes, même dizaines de minutes.
Bah, c'est comme aujourd'hui. Je me donne toujours autant, mais ça dure moins longtemps.
Voilà, c'est ça. Je sais pas de quoi tu parles du tout. Je pense que ça doit être de tes dîners en ville. Ça dure de moins en moins longtemps et les plats sont de moins en moins nombreux. En revanche, dernier auditeur, auditrice qui te pose cette question avant de te dire au revoir.
What's happened sur le WhatsApp de Jean-Luc?
Salut Marc, c'est Laetitia de Montargis. J'avais une petite question sur le disco, parce que moi j'aime beaucoup le disco. Je voulais savoir si tu considérais que le disco était mort aujourd'hui.
Ceux qui peuvent imaginer que le disco est mort aujourd'hui, il faudrait qu'ils vivent sur une planète, hein,
ouais.
Pas la Terre. Bah non. Mais en plus, comme je le disais au début de l'émission, le disco n'est jamais parti, il a changé de nom. Il s'est appelé la house, le garage, le groove, la techno, l'électro. Mais à partir du moment où ça reste de la musique pour danser, pour faire vibrer le corps et pour s'envoyer en l'air. C'est ça la disco, c'est de la musique de discothèque.
Mais ce que veut dire peut-être Laetitia en sous-jacent, c'est le renouvellement du disco en fait. C'est ça, parce que les bases, tu les as données entre autres avec plusieurs personnes dont tu as parlé.
La musique disco n'est jamais partie. Le terme, alors ça a été plus ou moins en avant à des périodes musicales, hein, en 50 ans. Le terme a changé, s'est éloigné, mais la musique disco, non, elle a toujours été là.
Et le renouvellement, tu penses que...
Il n'y a pas de renouvellement. Moi, je trouve qu'elle a toujours été en fond.
D'accord.
Et comme on le disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de samples. Il n'y a pas que moi qui a eu des samples.
Hein, bien sûr.
Il y a eu des samples, il y a eu des remixes.
On a beaucoup d'exemples de samples.
Ceux qui sortent dans les clubs ou dans les discothèques et ci et ça, elle a toujours été jouée.
Ouais.
Mais plus ou moins à la mode en fonction des périodes, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment jamais parti. Aujourd'hui, c'est très en avant. Je trouve qu'au niveau de la France aujourd'hui, la disco est reconnue comme un vrai style musical. Alors
c'est
que
vrai.
Pour longtemps, ça a été reconnu comme une mode. C'est pas une mode, c'est plus que ça, c'est un vrai son.
Et t'as été un vrai maillon de base. Si, je t'assure.
J'ai tenté.
Ah non, mais tu es même bien arrivé. Preuve en est qu'il y a une journée internationale du disco demain. J'avais juste envie de te remercier.
C'est moi qui t'en remercie.
Non, j'ai adoré. Ah ouais, mais vraiment. J'ai adoré ce 11 tutoie avec Céron. Et puis une très très belle route. On va venir te voir dans tous ces petits festivals. J'ai adoré. Je suis désolé. Excuse-moi de t'avoir dérangé.
Ouais, tu vas me faire rougir, là. Tu vois, voilà. Il profite.
Un bon week-end à toi et à ceux que tu aimes.
Merci à tous d'être toujours là, quoi, pour écouter.
On sera toujours là.
C'est gentil.
Merci à toi, merci à toutes, merci à tous. Très bon week-end et n'oubliez pas, demain, journée internationale du disco. Ça, c'est la classe.
Je vous embrasse tous. Salut.
Merci Marc.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.